Bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission sur l'éducation positive. En effet, une loi contre les violences éducatives ordinaires, appelée loi anti-fessée, vient d'être votée cet été. Mais écoutez comment on parlait des châtiments corporels à la radio en 1951. C'est le comédien François Perrier qui s'exprime dans l'émission La Tribune de Paris.
Je ne voudrais pas avoir l'air de donner de conseils aux auditeurs, mais je crois, je n'aime pas la gifle. La fessée me paraît un moyen excellent. Et qu'on peut toujours subsister, parce que vous savez que sur le plan purement physique, la fessée est beaucoup moins dangereuse que la gifle. La gifle peut entraîner des conséquences, notamment pour les oreilles, les yeux.
Mais
le
surtout
nez.
Quand elle est donnée par l'homme, oui.
Oui, si elle est violente.
Oui, non, mais il y a quelque
alors
chose
que
de
méliant. Alors chacun sait que la fessée est un excellent exercice, un excellent exercice circulatoire. Bon. Mais bravo. Alors surtout que la fessée, la punition, quelle qu'elle soit, même si ça doit être une gifle, soit instantanée.
Savoir, Louise Touret.
Hallucinante archive, hein. Alors, je reviens sur cette loi. Il a fallu 9 mois entre le premier texte et la promulgation de ce texte, donc sur les violences éducatives, voté le 10 juillet dernier. Ce n'est pas seulement les fessées qui sont proscrites, mais l'usage de la violence, y compris verbale, envers les enfants. Nous avons choisi d'en parler au moment où les parents et les enfants prennent de bonnes résolutions. C'est la rentrée. Et puis, à l'occasion de la sortie d'un livre, L'éducation vraiment positive, qui détricote un peu les termes de ce qui est prôné aujourd'hui comme une méthode éducative. Mais c'est bien un signe des temps, pour reprendre une formule qu'on aime bien à France Culture, un signe des temps de ce qui change en matière d'éducation et dans la manière de considérer l'enfance. À ceci s'ajoute le fait que le ministère de la Santé s'est doté depuis janvier d'un secrétaire d'État à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, qui élabore actuellement des politiques de la famille qui incluent toujours davantage la question de la parentalité. Les caisses d'allocation familiale, les CAF, se sont aussi saisies de la question depuis quelques années en publiant des livrets des parents, et l'éducation nationale prône désormais la bienveillance envers les élèves. Alors que signifient ces termes ? Parentalité, bienveillance éducative, éducation positive, des mots qui ont d'abord commencé par occuper les rayons psychologie des librairies et qui aujourd'hui font vendre des millions de livres. Que signifie aussi cette vision parfois qualifiée d'individualiste de la charge éducative pour les parents en premier lieu ? Cette émission, comme tous les numéros d'Être et Savoir, vous propose d'explorer une question éducative en cherchant à la fois à la définir, en éclairant les enjeux qui y sont attachés et surtout en questionnant ceux dont les travaux sur la question sont les plus importants et riches, une manière de nourrir votre réflexion. Et les coparents d'Être et Savoir sont Philippe Baudouin à la réalisation, Avril Ventura et moi-même. C'est Adèle Caglar et Laurie Vachon qui en assurent la prise de son ce soir. Enfin, la leçon de choses de Sophie Bobert en fin d'émission, alors que nous venons de fêter les 75 ans de la libération de Paris, le plasticien Pierre Buraglio revient sur les années de son enfance, passées à attendre son père, prisonnier de guerre. Sans doute la naissance de son combat politique qui le mènera des années plus tard à l'art et à mai 68 aussi.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pampan tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler. Viens donc faire la vaisselle, arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, à dada, pour trop de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pampan tu tues. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, à dada, pour trop de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça, patata pour tout cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi au aussi on m'a dit ça, fais pas si, fais pas ça, fais pas si.
Et vous aussi, on vous a dit ça, et que dites-vous, vous, aux enfants de votre entourage? Évidemment, difficile de ne pas penser à Jacques Dutronc quand on parle d'éducation positive ou de parentalité positive. Question donc que vous décortiquez, Béatrice Kammerer, dans votre dernier livre, L'éducation vraiment positive. Il est publié chez Larousse, là, depuis le 4 septembre. Bonjour.
Bonjour Louise.
Je crois qu'il faut préciser que ce n'est pas un livre de conseils.
Oui, alors ça c'est vraiment très important. D'abord parce que les parents, des conseils, ils en reçoivent énormément, sollicités ou non sollicités. Puis que c'est vraiment la norme dans les livres de parentalité de donner des conseils et de dire aux parents quoi faire. Alors moi j'ai fait un choix un petit peu différent. J'ai fait le choix d'en appeler plutôt à leur intelligence et de considérer qu'au 21e siècle, on a besoin de parents qui réfléchissent, qui sont critiques sur eux-mêmes et sur la société et qu'on veut les outiller et leur permettre de faire des choix qui ont du sens pour eux et pour leur famille.
Et puis, au-delà d'interroger les normes parentales et éducatives actuelles, et peut-être même les normes anciennes, Claude Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en duplex depuis France Bleu Rennes, qu'on remercie. Vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de « Être un bon parent », une injonction contemporaine aux éditions de l'EHESP. Ça a été publié en 2014. Depuis combien de temps, en tant que sociologue, vous intéressez-vous à la parentalité et à l'éducation positive? Est-ce que c'est d'ailleurs un terme que vous reprenez?
Je m'intéresse aux parents d'abord parce qu'on a fait du travail parental un problème public. Donc je le regarde depuis le milieu des années 90 avec beaucoup d'attention.
Mais déjà, faut-il peut-être bien définir ce que c'est que l'éducation positive? Pour le comprendre, j'en ai parlé avec plusieurs professionnels et autrices. Alors oui, ce sont des femmes en général qui parlent d'éducation positive. Catherine Dumontail-Crémer, par exemple, ou la psychothérapeute Isabelle Fioza. Elle a vendu près de 2 millions de livres ces dernières années. Ses ouvrages s'intitulent « Au cœur des émotions de l'enfant », par exemple, ou « J'ai tout essayé ». Alors avec cette dernière, j'ai voulu comprendre en quoi consistait l'éducation positive, en commençant par lui demander pourquoi elle insistait tant sur le fait de ne plus dire « non » à son enfant.
Alors surtout avec ce ton-là, non. C'est clair que un non dit comme ça risque de déclencher une crise. Pourquoi? Parce que quand on dit non, eh bien, on a les sourcils qui se froncent, on a tout. En fait, l'enfant, du coup, réagit non pas au non, mais il réagit à notre propre stress. Donc, il fait sa crise. Il fait la crise à ce moment-là parce que simplement, son cerveau est sous stress. Bien sûr que nous allons refuser toutes sortes de choses à notre enfant, mais il y a d'autres manières de refuser que de dire non. On peut par exemple, quand l'enfant est tout petit, on va lui dire stop. Il est là, on voit sa main qui approche vers la plante verte et on veut pas qu'il trifouille la plante, donc hop, on lui dit stop. À ce moment-là, eh bien, il s'interrompt dans son geste, il nous regarde et on peut expliquer. Pour un adolescent, si on lui dit non, il va aussi immédiatement se mettre à bagarrer, à s'énerver, etc. Au lieu de lui dire non ou je t'interdis, on va lui dire « comment vas-tu faire pour s'il se passe telle chose ?» C'est-à-dire qu'on va muscler son cerveau, on va l'aider, lui fournir des ressources. C'est-à-dire que la parentalité positive, on dit positive, ça ne veut pas dire qu'on ne refuse rien, ça veut dire que nos refus, on va les orienter vers donner des ressources plutôt que des limites.
Que répondez-vous à ceux qui disent que le non est structurant?
Ce qui est structurant, c'est de savoir où on va. Ce qui est structurant, c'est d'apprendre que lorsque je... Ah, une plante verte, c'est sensible, donc je la caresse plutôt que de lui tirer dessus et de déchirer la feuille. Ce qui est structurant, c'est d'apprendre comment on fait dans la vie. Ça n'est pas qu'on nous dise non et qu'on stimule notre cerveau excessivement.
Ce que vous proposez, c'est une rééducation parentale presque.
Mais tout à fait. En fait, c'est revenir à une façon plus harmonieuse d'être avec nous-mêmes aussi.
C'est-à-dire revenir que... ou découvrir, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde connaît ou...
Non, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît parce que nous sommes tellement habitués à la violence éducative.
Mais dire non, c'est pas une violence.
Alors, non. Là maintenant, je vous le dis, et bien sûr que ça n'est pas une violence. Et bien sûr qu'on va dire non, souvent aussi. Mais on va éviter de dire non en étant ferme et en disant juste non, tu fais pas ça, en étant autoritaire. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant réagit à ce stress. Et on va éviter de dire non brutalement.
Alors, comment vous, qui écrivez des livres et donnez des conférences à l'attention des parents, juste des parents, vous observez à la fois cette montée en puissance de l'éducation positive et finalement cette divulgation dans toutes les strates de l'éducation? Est-ce que ça peut devenir une politique publique?
J'espère que ça va devenir une politique publique. En tout cas, c'est dans ce sens que le Conseil de l'Europe travaille, en incitant tous les gouvernements européens à entrer dans cette parentalité positive. Je rappelle que la parentalité positive, c'est une parentalité qui respecte les besoins et les droits des enfants et des parents. Donc, on ne peut pas être contre cette parentalité positive puisqu'elle respecte nos besoins à tous. Par contre, nous manquons de moyens. Nous avons vraiment besoin d'installer des politiques publiques extrêmement exigeantes et qui vraiment vont fournir aux enfants, aux parents, aux professionnels de l'enfance. On a vraiment besoin de fournir des outils et une direction claire.
Mais selon vous, à quoi pourraient ressembler ces politiques publiques ?
Clairement, tout le monde a vraiment besoin d'informations, de plus d'informations sur ce qui se passe dans la tête d'un enfant, dans le corps d'un enfant. Et une fois qu'on a plus d'informations, eh bien, on peut naviguer un petit peu plus facilement. On a aussi besoin de changer notre regard sur l'enfant. Et ça, ça peut se faire de manière globale par de l'information télévisée, par des petits films, par des séries. Voilà, tout ce que nous voyons, tout notre environnement a besoin de porter le message. Les enfants ont des besoins, le cerveau d'un enfant, pour grandir, il a, c'est important d'écouter ses émotions, c'est important de tisser du lien. L'attachement, c'est fondamental. C'est comment l'attachement? Eh bien, l'attachement, c'est pas en regardant son téléphone pendant qu'on allaite. L'attachement, c'est quand on regarde. L'importance des interactions précoces, tout cela, ça a besoin d'être dit aux parents. Tout n'est pas de la responsabilité seule des parents. Nous avons à profondément modifier nos structures sociales pour que l'enfant ait sa place.
Voilà qui explique ce qu'est l'éducation positive avec donc Isabelle Fioza, qui est une des autrices qui aujourd'hui s'en fait la porte-étendard. Mais on va revenir un petit peu à l'historique de cette manière de considérer l'éducation et la fonction parentale. Claude Martin, sans remonter à Jean-Jacques Rousseau, c'est depuis les années 30, on l'apprend en vous écoutant, que les choses ont changé.
Oui, en effet. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas mentionner la création de l'école des parents, puisque vous voyez exactement dans son intitulé ce que cette grande association qui continue d'exister aujourd'hui visait. Faire en sorte que les parents parlent aux parents et se préoccupent de leur rôle propre, si on peut dire. Alors, le contexte est très différent, bien entendu, dans les années 30 et avec celui qu'on connaît aujourd'hui. L'enjeu à l'époque, c'était pour un certain nombre de dames d'œuvre qui s'adossaient d'ailleurs à des savoirs pédopsychiatriques de l'époque, c'est de lutter contre ce que la Troisième République véhiculait, c'est-à-dire une intrusion excessive dans la vie des familles. Ça s'est joué d'ailleurs beaucoup autour de la formation ou de l'information sur la sexualité pour les jeunes. À ce moment-là, des parents ont dit non, l'école arrête là sa fonction. Ils sont en train d'empiéter sur le rôle des parents. Et l'école des parents, c'était une réaction contre cette intrusion excessive de l'État qui donnait l'impression qu'il prêtait les enfants à leurs propres parents. Et qui pouvait d'ailleurs les leur retirer s'ils n'en étaient pas capables ou aptes. Donc voilà comment cette histoire commence, et elle va après se prolonger, bien entendu, avec beaucoup d'autres initiatives et un véritable marché du conseil.
Et puis un tournant avec ce qu'on a appelé la psychologie positive.
Oui, en effet, et même d'ailleurs un peu avant encore, il y a un auteur qu'on mentionne quand on parle de la psychologie positive, qui a trouvé ses lettres de noblesse aux États-Unis avec Martin Seligman, qui est le pape de la psychopositive, puisqu'il était en plus le président de l'Association américaine de psychologie, une instance très très puissante, c'est Norman Peels. Alors Norman Peels, c'est dans les années 50, début d'années 50, il écrit un ouvrage qu'il intitule « Le pouvoir de la pensée positive ». C'est un pasteur protestant et au fond, il nous dit que pour être victorieux et gagner dans la vie toutes les batailles, il faut avoir confiance en soi et avoir une pensée positive. Donc je crois qu'on trouve des racines, vous voyez, déjà dans les années 50, de ce courant qui va se développer par la suite, exploser véritablement comme le principal marché du conseil pour le bonheur des enfants et des parents, bien entendu.
Un marché, mais aussi des émissions de télévision, de radio, la presse. Et le terme « éducation positive », d'où vient-il, Béatrice Kammerer ?
Alors déjà, ça peut renvoyer d'une part à la définition de l'éducation positive qui n'est pas très stabilisée. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé dans mon livre de retrouver un peu quelles étaient les origines, d'où ça venait finalement. Et on se rend compte que c'est un terme qui parle à tellement de monde qu'il est un petit peu une sorte de coquille vide dans laquelle on va pouvoir mettre plein de choses. Tout le monde a envie d'avoir une éducation positive, personne n'a envie d'avoir une éducation négative. En tout cas, ça sonne mieux à l'oreille. Donc du coup, les différentes références idéologiques qui sont convoquées sont assez floues, assez diverses et c'est difficile d'en faire le tour. Moi, j'en ai identifié un certain nombre. Par exemple, tout le courant de Carl Rogers, l'humanisme, aux États-Unis, donc qui prônait une autre manière d'envisager la relation au patient, qui soit plus dans la collaboration et non pas le thérapeute qui sait, le patient qui ne sait rien et qui doit se laisser guider. Toutes les théories de l'attachement, on en reparlera très probablement, qui étaient là pour montrer un petit peu l'importance pour l'enfant d'avoir une base de sécurité, d'avoir auprès de son parent cette base de sécurité qui va lui permettre d'explorer. Et puis plus récemment, le courant de la psychologie positive que Claude Martin a évoqué, et ce recours nouveau, là pour le coup assez récent, à toute la catégorie des neurosciences, mais qui apparaissent pas forcément comme une origine de ce courant, une manière de ils ne dictent pas quelles sont les normes de ce courant, mais ils viennent justifier en fait les propositions, les conseils qui sont donnés par les personnes qui se revendiquent de l'éducation positive. Donc c'est tout le discours autour de c'est bon pour son cerveau, ça va détruire son cerveau ou ça va être mauvais pour son cerveau. Ça c'est quelque chose qui est très mobilisé aujourd'hui.
D'hormones du stress.
Voilà, c'est ça.
Quand on contraint un enfant, une hormone qui pourrait laisser un chemin de stress. Alors je l'ai
c'est
lu
ça, c'est-à-dire que
d'autres
au lieu
livres
de...
éducatifs, mais qui laisserait des traces et finalement mettrait peut-être même en danger les futurs apprentissages de l'enfant.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de convoquer un registre pour dire, psychologique, pour dire, on n'a pas envie de stresser son enfant, ou on n'a pas envie de lui infliger une forme de blessure quelconque. Non, on va aller convoquer les neurosciences et tout ce qui peut se passer dans le cerveau. Alors le problème de cet argumentaire-là, c'est qu'évidemment, il est extrêmement performant. Les parents y croient énormément, ils sont extrêmement sensibles, c'est dans l'air du temps, on veut de la science dure et forte, donc les neurosciences, on est en plein dedans, mais ça tient pas très bien, en tout cas pas dans le cadre de l'éducation positive. C'est-à-dire que typiquement, les hormones, tous les discours autour de l'hormone du stress, quand on regarde même parmi les plus reconnus des personnes qui citent ces études, par exemple, on se rend compte que très souvent, les études auxquelles elles font référence renvoient à des études sur les animaux. Alors quand on va voir ce que c'est que le stress chez l'animal, on se rend compte qu'en fait, il a reçu des électrochocs, il a été plongé brutalement dans un bain d'eau froide, il a été privé de nourriture. Donc en fait, on a étudié les conséquences du stress chez l'animal à partir de situations qui sont complètement folles et qui n'ont rien à voir avec le quotidien d'un enfant. Donc voilà, tout ça, on va les extrapoler et après dire aux parents, le stress est très mauvais pour l'enfant, sans jamais définir ce que c'est que ce fameux stress et sans jamais s'interroger sur l'utilité des stress évidemment modérés, hein, tout le monde est d'accord pour dire que les stress de forte intensité répétés sont mauvais, mais le stress modéré dans la vie quotidienne que tout le monde subit, est-ce que ça c'est vraiment mauvais pour la santé? Ben ça, on n'a aucune conclusion là-dessus et aucune étude là-dessus.
Alors c'est ce que vous avancez, c'est pas ce que pensent les partisans de l'éducation positive. En même temps, ici, on n'est pas pour stresser les enfants, mais derrière tout ça, il y a un projet qui est beaucoup plus vaste. En fait, l'idée, c'est aussi qu'un enfant éduqué dans des conditions on va dire, plus douce, serait lui-même plus tard un adulte différent. Et tout ça est censé aboutir à une société meilleure. Claude Martin, sur ce projet assez global.
On accentue énormément le rôle que les parents peuvent jouer. Parce que s'ils ratent le début, s'ils manquent à leurs devoirs, s'ils n'appliquent pas les bonnes méthodes, s'ils ne musclent pas le cerveau de leurs enfants, si j'ose dire, ils vont fabriquer des monstres, et des monstres qui vont coûter de l'argent public 20 ans plus tard. La thématique de l'investissement social, c'est exactement la même chose. Dire « j'investis 1 dollar aujourd'hui, j'économise 7 dollars dans 15 ans », c'est de la solidarité de banquier, si vous voulez. C'est une façon de penser que le futur est déterminé par les actes parentaux d'aujourd'hui. Alors on comprend pourquoi les parents sont stressés à certains égards, parce que l'enjeu est majeur.
Béatrice Kammerer, sur cette question de créer une société meilleure en transformant l'éducation, c'est aussi ça le projet de l'éducation positive.
Oui, absolument, c'est ça le projet de l'éducation positive. Un des points que je relève, qui moi m'apparaît en partie paradoxal, c'est que finalement, ce projet de société est censé être plus respectueux des uns et des autres, des besoins des uns et des autres, finalement, il serait appliqué, il ne serait valable que en direction des enfants. C'est-à-dire que finalement, un des points que j'ai essayé de documenter dans ce livre, au travers des témoignages des parents en particulier, c'est qu'on tout se passe comme si les enfants avaient droit au respect, à l'écoute, au soutien, mais pas les parents. Tout se passe comme si, finalement, aux enfants, évidemment, on essayait de les élever sans violence, ni verbale, ni physique, mais par contre, les parents, on pouvait les malmener, on pouvait les culpabiliser, on pouvait les menacer, parce que finalement, cet idéal est tellement présenté d'une manière autoritaire et sans alternative possible, qu'il faut le diffuser d'une manière très violente, en fait, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est comme ça que certains parents le vivent. Et on peut penser qu'ils ont raison de le ressentir comme ça.
C'est ce que contredit tout de même le succès des livres d'éducation positive. Et puis, il y a aussi la diffusion de ces théories, alors plus ou moins transformées, auprès du grand public. Il y a une émission que vous connaissez sûrement l'un et l'autre. En tout cas, elle existe depuis 2005 en France. C'est une émission britannique. Au départ, elle est aujourd'hui diffusée sur la chaîne TFX, c'est Super Nanny.
Leur quotidien est rythmé par les cris. Le matin,
il y a le petit déj à prendre.
Le midi,
Vous faites quoi là?
Le soir,
pourquoi? Et tu n'en veux pas?
Aucun répit pour les parents.
Moi j'aimerais juste qu'il n'y ait plus de cris, qu'il n'y ait plus de pleurs. Parce que c'est vrai que c'est usant et très très fatigant.
Et pour se faire entendre des enfants, Maxime, le papa, a sa technique.
Ça me fait pas rire.
Il crie, lui aussi.
Nali quoi? Dodo, c'est ici.
Quant à Anne-Sophie, la maman, elle a depuis longtemps baissé les bras.
J'ai plus la motivation d'être mère au foyer.
Maman doit prendre l'air parce qu'elle en a marre de vous.
Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse.
Bonjour Maxime.
Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura 10 jours pour résoudre les problèmes de cette famille.
Tu fais ta tête de mule, déjà dès le matin? Aïe, aïe, aïe.
L'objectif, que la famille retrouve du calme et le bonheur de vivre ensemble.
Allez Anne-Sophie, détendez-vous, amusez-vous avec vos enfants un peu.
Claude Martin, en tant que sociologue et vous qui vous intéressez depuis longtemps à la parentalité, quel regard portez-vous sur ce type de programme?
Alors, peut-être revenir sur la question juste que vous venez de poser, c'est-à-dire comment expliquer en même temps que les parents soient tellement avides de conseils. Là, on a un peu une réponse avec l'exemple de Super Nanny, si on croit d'ailleurs que les parents qui acceptent d'aller dans ce type de programme sont complètement informés sur ce qui va arriver. Mais je crois que ce dont ça témoigne, c'est précisément que on a une réponse très comportementale par rapport à des problèmes qui, quelquefois, sont des problèmes dont on doit embrasser un contexte plus large. Il faudrait entendre parler des conditions de travail des parents, il faudrait connaître leurs horaires, il faudrait savoir comment ils s'organisent concrètement et matériellement, connaître au fond les services qui leur sont accessibles, voir en effet tout ce qui constitue leur vie quotidienne et les moments de crispation, où il y a à la fois la fatigue au travail, la fatigue avec les enfants, la saturation, qui montre que le problème n'est pas dans le comportement strictement des parents, mais dans une source qui est autre, qui est le contexte. On nous dit dans la psychologie positive que on peut être heureux quelles que soient les circonstances. Vous voyez, c'est changer votre regard sur le monde et vous allez aller mieux. Hein, regardez les choses positivement, cessez de vous plaindre des problèmes que vous rencontrez. Alors moi, j'ai plutôt tendance à penser que la parentalité, c'est quelque chose qui s'exerce, qui se manifeste, qui s'exprime. Ce sont des relations dans lesquelles on avance par essais-erreurs, on est en effet en train de tenir compte de tout un système de contraintes, et que le postulat le plus courant, c'est de voir que les parents font de leur mieux. Hein, et les plus avertis d'entre eux pourraient dire, d'ailleurs, quand on leur donne des conseils, ils pourraient dire, bah, écoutez, prenez la clé de ma vie, voilà, j'habite là, je travaille là, mes enfants sont ici, l'école est là-bas, prenez ma vie pendant une semaine et faites mieux. Ça serait une bonne réponse, hein, à tous ces conseillers qui disent il suffit de, etc. Ou bien qui vous mettent un petit Jiminy Cricket au bord de l'oreille qui dit quand l'enfant pleure, déconnectez, ne le regardez plus, par exemple. Hein. Ne vous connectez pas avec l'enfant qui se comporte mal et dès qu'il sera plus positif, alors vous allez rétablir le contact. Ça, c'est de la réponse comportementale. Et ce comportementalisme, en plus, il est assez basique. Hein. C'est vraiment les techniques, pratiquement, du début, ce qui n'est rien du modèle comportemental. Avec votre enfant, c'est en effet la gratification ou la sanction, la punition. Hein, voilà. Donc, moi, je répondrai à votre question sur le fait que, d'un côté, la demande est très forte parce que les conditions de vie des parents se sont pas mal tendues, on pourrait dire. On sort d'un monde dans lequel, en plus, on avait résolu le problème en envoyant les hommes au travail et en confinant les femmes dans la domesticité et dans l'éducation des enfants. On est dans un autre monde et dans lequel les tensions ont changé d'ailleurs de nature, mais pas de volume. Hein. C'est toujours aussi prégnant. Donc, ils demandent du conseil. Ils n'y arrivent pas.
Et
ils sont
fatigués. Sur cette dernière partie du constat, les tenants de l'éducation positive que vous ne vous privez pas de critiquer, eh bien, vous rejoignent, hein, Claude Martin. On peut penser que les conseils semblent parfois un peu mal ajustés, même si le but poursuivi est noble, ou en tout cas est enviable, mieux s'entendre avec ses enfants, avoir retrouvé une certaine harmonie familiale. Est-ce que c'est un peu comme les régimes des méthodes toutes faites, Béatrice Caméret?
Oui, je pense que la comparaison est tout à fait pertinente, parce que c'est la question de la méthode miracle, et c'est ce qu'on entend un peu dans Super Nanny. D'ailleurs, c'est ce qui fait rêver. Hein. Elle arrive, elle a sa boîte à outils, je ne sais plus comment ils ont dit, voilà, et elle va tout résoudre, comme s'il existait une méthode miracle pour élever les enfants, comme si on pouvait suivre un tutoriel, finalement, pas bien plus compliqué que pour déboucher son évier, pour élever un enfant. Ça fait rêver tous les parents, parce que c'est vrai qu'ils ressentent des vraies difficultés. C'est pas facile, la parentalité, aujourd'hui, il y a des très fortes attentes sociales. On met beaucoup de choses sur le dos des parents, il faut être avoir une carrière épanouie, il faut s'occuper de ses enfants, il faut les amener aux activités. Ben, il y a énormément d'attentes sociales, une forte élévation des standards éducatifs et puis beaucoup de réponses diverses parce qu'effectivement, en fait, on n'a pas la méthode miracle. Mais donc, cette conjonction des deux font que les parents démunis, souvent très isolés parce qu'on n'est plus dans un contexte où on a les grands-parents près de chez soi, où on peut facilement demander de l'aide à son entourage, c'est plutôt pas forcément très bien vu. Donc, les parents sont très isolés, il y a des très fortes attentes, il y a des réponses très contradictoires et très difficiles. Donc évidemment, ils sont très fortement en attente d'une méthode miracle, simple, qu'ils vont pouvoir appliquer sans trop se poser de questions. Et oui, évidemment, c'est un piège, comme les régimes sont un piège, parce qu'un enfant, ben, c'est assez unique. Même quand on en a plusieurs, on se rend compte effectivement que ce qu'on a pu faire avec le premier ne fonctionne pas avec le second. Et que le métier de parent, c'est un métier d'ajustement, de bricolage, d'expérimentation. Et ça, c'est quelque chose qui est à assez réprouvé, y compris par les partisans de l'éducation positive, parce que il y a cette volonté aussi de contrôler, en tout cas dans une certaine mesure, le comportement parental pour qu'il corresponde, voilà, à ce vers quoi on veut aller. Donc voilà, il y a une forme de paradoxe et de contradiction qu'on essaye de résoudre, voilà, tant bien que mal.
Une contradiction qui amène certains parents à s'emparer de la question par le biais de l'humour. C'est le cas de Florence Foresti. Je pense que vous connaissez ce sketch. Il date de 2015. Il s'appelle « La maman calme ». L'humoriste y campe une mère lisse et sûre d'elle avant de jouer son propre rôle.
Oh, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois là? Les cartes Pokémon, qu'est-ce qu'on a dit, chérie, pour les cartes Pokémon? Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Je suis fâchée, je suis au bord de moi-même. Regarde, je tremble. Tu as trahi ma confiance, mon chéri, je suis très déçue. Non, une seconde. Je parle avec un adulte et je reviens à toi ensuite. Profite de ce moment pour réfléchir à ce qui vient de se produire, ok? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. La réunion parents-élèves? Oui, bien sûr, j'y serai absolument ce soir, 18h, c'est noté. Oui, bien sûr, j'ai préparé un PowerPoint. Ouais, je crois que c'est fondamental de se serrer les coudes. Je vous dis à tout à l'heure, comptez sur moi, passez une excellente journée. Alors, mon chéri, tu as réfléchi? Tu te souviens, on avait un deal. On avait un deal pour Pikachu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je t'écoute. Pikachu reste à la maison avec Doudou. C'est bien, je suis fière de toi, mon grand. Allez, file, amuse-toi bien. Quelle canaille. Poussez-vous! Ça, c'est moi qui arrive. Poussez-vous, Nicolas! 8h32, dépêche-toi, bordel, cours, merde! Attendez, on est là. On est là, c'est bon. Allez, bisous, ma chérie, je t'aime. Je t'aime, mon amour. Hein? Attends, bonjour. Non, n'approchez pas. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 attends, les cartes Pokémon, rends-moi les cartes Pokémon. Non, non, attendez, rends-moi les cartes Pokémon. Tu me rends ces cartes Pokémon? Rends-moi ces cartes. Bon, allez, vas-y, garde-les, on s'en branle, j'ai pas le temps.
La maman calme versus la maman surmenée, épuisée, ce sont finalement les deux faces d'une même médaille maternelle. Claude Martin, menez-vous également une réflexion sur le côté genré de la parentalité?
Bah, c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on pense à l'émergence du terme de parentalité. Pourquoi parle-t-on des parents alors qu'on parlait précédemment de la famille et que l'histoire de la santé publique s'est énormément focalisée sur les mères? Le travail maternel, l'accompagnement de l'allaitement, et j'en passe, est des meilleurs. Donc, bien sûr, il y a quelque chose de l'ordre de là encore une fois, d'un peu d'un paradoxe. Est-ce que la parentalité vient là pour dire que les parents, c'est le terme neutre, parce que les pères comme les mères font à peu près la même chose aujourd'hui, et que des pères peuvent être des mères comme les autres, et réciproquement? Or, la réalité, c'est l'inverse, c'est-à-dire on a beaucoup voilé, masqué le fait que de parler des parents, c'est pour éviter de donner l'impression qu'on est encore en train de faire un focus sur le rôle des mères. Donc je crois que c'est un peu un discours un peu hypocrite. Et la meilleure preuve, c'est que les dispositifs de soutien à la parentalité ont un public extrêmement dominant, comme tout d'ailleurs les stages dont on a parlé au début d'aide à la parentalité ou de parentalité positive. Ce sont des mamans qui constituent 80-90% du public volontaire pour ces situations. Donc non, on ne fait pas encore la même chose, et il vaut la peine d'ailleurs de le distinguer. De la même manière que je crois qu'on n'a pas évoqué un point, mais qui est hier, c'était facile d'avoir une condition supérieure à celle de ses parents. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et j'ai envie de dire, ça augmente encore la difficulté qu'éprouvent les parents. S'ils veulent réussir pour leurs enfants, c'est parce que précisément ils sentent que le challenge va être dur à gagner.
In the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming, do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms, I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready, it's not raining today. I'm late and I must hurry,
Welcome to my wife. I don't wanna weather some slobbery. It's not raining today. Kill the light, I can see.
Time is running out. Ghosts keeping me alive. I get what it means. You have to survive. Time is running out. Ghosts keeping me alive. I get what it means. You have to survive.
You know I'm on the road. We are playing tonight. Ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. They're saying to me, I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I won't obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, focus, live and get free.
Culture, être et savoir, Louise Touret.
Béatrice Kammerer, vous parlez de charge mentale, mais aussi d'épuisement parental et donc particulièrement maternel dans votre ouvrage.
Oui, parce qu'en fait, je me suis en fait posé la question, est-ce que l'éducation positive, ça en rajouterait pas un peu sur le dos des mères? Bon, la réponse, j'en avais déjà ma petite idée, mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et en particulier, j'ai essayé de rencontrer des parents qui se disaient, enfin des mères essentiellement, qui se disaient féministes et par ailleurs intéressées, pratiquants, convaincus par l'éducation positive. Et c'est vrai que leur choix les place clairement dans leur discours dans une forme de tiraillement parce qu'elles sentent bien que ce sont elles qui font les démarches pour acheter ces livres, pour suivre les formations, alors même qu'elles elles sont censées partager leur quotidien avec des pères pas trop machos, voire franchement investis, que ce sont elles qui s'efforcent de faire entrer dans leur famille ces nouvelles pratiques, ces nouvelles manières de communiquer, qui s'efforcent d'être une espèce de coach familial, de coach en développement de la famille, développement personnel de la famille, je sais pas comment le décrire exactement, et qu'en fait c'est encore sur elle que cette mission incombe, et qu'elle incombe dès la naissance de l'enfant finalement, parce que dans l'idée de l'éducation positive, notamment avec ses liens avec les théories de l'attachement, il y a cette idée qu'il faut pouvoir être extrêmement réactif aux besoins de l'enfant, donc ne pas le laisser pleurer, le tenir dans ses bras, ce qui par ailleurs sont des valeurs dans lesquelles on peut se reconnaître, mais qui réclament des parents et souvent des mères, parce qu'il y a évidemment la question de l'allaitement maternel. Alors encore une fois, c'est un choix tout à fait libre, mais qui mobilise beaucoup les femmes. Elles réclament des mères vraiment une attention de chaque instant. Et ça, c'est quelque chose que ces femmes ont vécu et qui leur pose vraiment problème. Donc il y a dans cette proposition, dès le départ de l'éducation positive, une adresse aux femmes, une attente destinée aux femmes, et qu'évidemment les hommes déjà n'investissent pas beaucoup dans l'éducation des enfants, mais investissent encore moins dans ce cadre-là.
Ça, ce sont les statistiques pour ce qui concerne concerne les ouvrages d'éducation positive.
Absolument.
On peut lire
oui.
quand même que cette critique est de plus en plus prise en compte et qu'ils essayent de s'adresser, en tout cas pour plus récents, aux pairs aussi.
Ah, mais ils essayent de s'adresser aux pairs. Le problème, c'est que le contexte général est tel qu'il y a des inégalités aujourd'hui. Mais évidemment qu'ils essaient de s'adresser aux pairs. On est encore à 65% quand même de tâches parentales assurées par les femmes, 12% de burn-out maternel estimé. Bon, voilà, on a encore du travail.
Dans cette émission, il faut parler de l'institutionnalisation du sujet. En 2014, les principes de bienveillance et d'évaluation positive ont fait leur apparition dans les textes de l'éducation nationale. L'éducation sans violence a été introduite dans le livret des parents édité par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Et puis cette loi donc contre les violences éducatives ordinaires. Écoutez ce que disait Marlène Schiappa au sujet de la vision de l'éducation de son gouvernement, du gouvernement auquel elle appartient.
Les cris, les insultes, les coups, les objets jetés, tout ça, ça contribue à la violence et la violence engendre la violence. Ça ne fait pas de bien à l'enfant, ça peut même le traumatiser et peut avoir des séquelles à l'âge adulte. Dans tous les cas, quand on aime son enfant, c'est important de rappeler aux parents qu'on ne doit pas lui faire de mal, qu'on ne doit pas le violenter, qu'on ne doit pas le frapper. Et je crois que c'est le rôle des pouvoirs publics que d'affirmer clairement cela en direction de tous les parents et de toutes les familles. Un enfant a des droits.
Claude Martin, pourquoi ne pas dire que c'est aussi, peut-être en plus, le rôle des pouvoirs publics ? C'est vrai qu'il y a une double critique qui est formulée, celle de ceux qui pensent que l'État doit assurer davantage des missions de service public traditionnel, et aussi une critique libérale, l'État nounou qui s'occuperait trop de care et pas de s'adresser à des citoyens plus adultes. Vous, Claude Martin, qu'est-ce que vous avez à formuler comme critique ?
Je ne suis bien entendu pas contre ce qui vient d'être dit. Il vaut mieux être bienveillant que violent, il vaut mieux être calme qu'énervé, il vaut mieux tout faire pour en effet réunir les conditions d'une forme d'harmonie dans les relations. Il me semble que tout ça va de soi. Maintenant, le niveau sur lequel on nous attend sur le plan des politiques publiques, ça n'est pas seulement celui qui dit il va falloir border les parents dans leur comportement, c'est de dire est-ce que la société est bienveillante ? Est-ce que le monde dans lequel nous vivons est bienveillant ? Est-ce que nous avons collectivement, générationnellement, socialement réussi à fabriquer des conditions de relative harmonie dans toutes les sphères de nos existences, au travail, à l'intérieur des ménages et dans les relations familiales, etc. Et là, je pense que cette question devient un peu plus intéressante et plus compliquée. On ne peut pas se limiter à dire, bien sûr, on ne peut pas être contre. J'ai envie de dire, ça va de soi pratiquement qu'il faut éviter ces formes de violence domestique, que ce soit entre les sexes ou entre les générations. Maintenant, ce n'est que le début de quelque chose que de dire, mais au-delà de cela, sur le plan des conséquences que ça peut avoir dans des trajectoires individuelles, qu'est-ce que collectivement nous sommes en capacité de faire pour mettre un peu d'huile dans les rouages d'une société où les tensions sont quand même extrêmement vives. Hein, on le voit, pensons au mouvement des Gilets jaunes, pensons au ressentiment qu'éprouvent ceux qui disent la répartition de la richesse est tellement injustement faite que moi je n'y arrive pas et au fond je sens que c'est de pire en pire. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? Parce que ça a à voir avec la vie familiale aussi. Hein. Ce qui crée les tensions et les limites.
L'État social, et ça fait longtemps maintenant, c'est aussi fixé pour objectif de protéger la famille et les petits-enfants. C'est le réseau des PMI, la protection maternelle infantile. Oui. Aujourd'hui, dans les cartons du secrétaire d'État à la protection de l'enfance, un programme pour les 1000 premiers jours de l'enfant. Claude Martin, est-ce que là, il n'y a pas aussi un axe de politique ? On sait que ces années sont aussi celles où on peut protéger les enfants avec un suivi médical, mais pas seulement.
Mais il faut bien réaliser que la PMI n'a cessé de voir ses ressources diminuer depuis des années et que la PMI ne fait pas aujourd'hui ce qu'elle faisait immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. La PMI, ça n'est plus juste la lutte contre la mortalité infantile ou la vaccination. La PMI, c'est plus que ça. Mais les moyens de la PMI n'ont cessé de se réduire au fil du temps. Donc bien entendu, quand on dit aujourd'hui il va falloir redonner des marges de mises en œuvre à des acteurs et des opérateurs qui sont à disposition de la population pour justement essayer de mettre de l'huile dans les rouages, je crois que oui, on a intérêt à le faire. Je ne suis pas du tout de ceux qui condamneront cette vision-là. Or, la difficulté que nous avons, c'est de politiser ces questions. Ce n'est pas de les individualiser, ce n'est pas de les décontextualiser et de dire les parents sont tous égaux devant le monde dans lequel nous sommes. Mais c'est tellement pas vrai. Les enfants ne sont pas non plus tous égaux devant le monde dans lequel nous sommes. Et il ne suffit pas d'être bienveillant pour résoudre l'apprentissage des inégalités dans l'école, par exemple, et l'apprentissage des inégalités par les enfants eux-mêmes. Donc, je trouve que la conception qu'on a des politiques publiques dans ce domaine est peut-être encore un tout petit peu limitée sur le cela va de soi. On n'est qu'au début de ce que je crois être la promotion du bien-être collectif des enfants.
Alors, on ne connaît pas encore les effets d'une politique qui n'a pas été mise en place. Dans votre ouvrage, Béatrice Caméraire, il y a aussi une critique sur la manière dont va être reçu le discours d'éducation positive dans la société. Un discours et des termes qui peuvent être compris de manière complètement différente par les différents parents, suivant par exemple leur classe sociale d'origine, leur histoire familiale, leurs références.
Oui, en fait, moi, une autre question que je m'étais posée, c'était de savoir finalement, est-ce que cette proposition éducative, elle était audible et comment est-ce qu'elle était reçue par les différents parents? Et c'est vrai que très clairement, quand on regarde un peu le détail des livres, on se rend compte que il y a beaucoup de savoir en psychologie, qu'on nous demande d'évoluer sur nos compétences langagières, qu'en fait, les parents qui sont en capacité de pouvoir s'approprier le plus rapidement possible ces contenus, qui sont quand même assez dense, c'est bien souvent des parents qui ont déjà un bagage, parce que c'est plus facile, pas parce que les autres n'en sont pas capables, juste parce que c'est plus facile quand on a déjà fait des études de se plonger dans des savoirs en psychologie. Donc ça met déjà un petit peu les parents plus modestes en difficulté. À cela s'ajoute que du coup, ces parents plus modestes, ils ont tout autant envie que les autres d'être de bons parents et de suivre ces nouveaux conseils, cet idéal qu'on leur propose. Donc ils vont se tourner vers des contenus un petit peu différents et qui bien souvent vont être un peu des caricatures de tout ça, qui vont donner des conseils très péremptoires.
Quand on simplifie, on est plus directif dans l'éducation positive.
Forcément, oui, parce que on va pas commencer à revenir aux origines, on va pas commencer à expliquer que tout le monde n'est pas parfaitement d'accord, que les preuves scientifiques, c'est encore un peu en cours d'élaboration. Non, il faut dire des choses claires, simples. Ça, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu de la part des partisans de l'éducation positive. Il faut donner des messages clairs, surtout aux parents des catégories modestes, comme s'ils étaient un petit peu pas capables finalement de réfléchir. Donc ils reçoivent un discours particulièrement péremptoire et autoritaire, donc qui ne fait particulièrement pas appel à leur intelligence, à leurs ressources, à leurs capacités eux-mêmes, et puis qui ne questionne pas leurs valeurs. Est-ce que finalement on est en adéquation avec ses propres valeurs? Est-ce que c'est vers là qu'on veut aller pour son enfant? Et donc voilà, ça reproduit aussi finalement, ça peut contribuer aussi à entériner les inégalités entre les parents.
Mais est-ce qu'on peut relativiser sur des valeurs éducatives au point de dire que la violence verbale, par exemple, c'est admissible, plus ou moins pas admissible?
Alors non, je suis pas du tout en train de dire que on devrait prôner le relativisme total et que tout se vaut. C'est pas du tout ça mon propos. Mais disons que entre le relativisme total et l'idée que la parentalité, le bon parent, ce serait quelque chose d'ultra précis et que si on ne fait que s'écarter, mettre un pied en dehors du chemin, ça y est, on est un mauvais parent. Je pense qu'il y a un pas. Et aujourd'hui, comme l'a dit Claude Martin, on est dans une société, et moi je suis de plein pied dans cette société, qui veut aller vers la non-violence, qui veut réfléchir justement à ce qui est véhiculé dans l'éducation, dans le rapport à l'enfant. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que l'éducation soit plus émancipatrice, pour permettre à l'enfant de mieux s'épanouir? Et en même temps, on ne peut pas faire croire qu'il n'y a qu'un seul chemin pour y aller. On ne peut pas faire croire que, si on ne suit pas le tutoriel positif de A à Z, on est forcément un mauvais parent, on va forcément bousiller le cerveau de son enfant et compromettre son avenir.
Eh bien, pour en savoir plus et pour réfléchir à la question, on peut évidemment vous lire, Béatrice Kammerer. L'éducation vraiment positive vient d'être publiée chez Larousse. On peut lire Claude Martin, Être un bon parent, une injonction contemporaine. On peut aussi lire Isabelle Fioza ou d'autres autrices de l'éducation positive pour se faire une idée sur la question. Merci beaucoup. Dans un instant, la dernière rubrique de l'émission, la leçon de choses.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
Et dans cette leçon de choses, on va se demander d'où vient la puissance du combat politique. Membre du collectif Support Surface, l'artiste Pierre Buralio, radicalement engagé dans l'idéal de 68, revient sur son enfance passée à attendre son père, prisonnier de guerre, une enfance politique, bien sûr.
Mon père part à la déclaration de la guerre en 40. On pensait au magnifique poème d'Aragon quand il dit dans les lilas et les roses « Juin poignardé », effectivement, et il fait partie des 1 500 000 hommes de l'armée française qui seront prisonniers, et il ne reviendra qu'en mai 45. Vous voyez, c'est Paris est libéré, mais mon père n'arrive. Par conséquent, je ne le connais, donc c'est la caractéristique principale de ma petite enfance, je ne le connais que lorsque j'aurai à peu près 6 ans. J'ai construit mon existence sans et avec lui, parce que prisonnier de guerre et non déporté, c'est un statut différent, n'est-ce pas ? Et ma mère pouvait recevoir quelques petites photos de ces toutes petites, comme à l'époque, vous savez, dentelées, et qui le montrait avec ses camarades au Stalag. Donc j'avais une image de mon père. Ma mère m'en parlait beaucoup. Et évidemment, alors il y a une image qui était, comment dire, hyperbolique, hypertrophiée d'un père quand il est arrivé avec sa capote kaki, etc., qu'il a débarqué. J'en doute, il y a eu, c'est pas une déception, mais quelque chose d'un peu déceptif, parce que je le voyais plus grand. Et en fait, il devait faire 1m73 ou 12. Bon, bref, mais c'est ça qui caractérise d'abord ma... Alors cette enfance, elle est seule avec ma mère, et elle est que dans la privation, parce que nous n'étions pas une famille aisée, donc mais une privation relative à côté d'enfants de la classe ouvrière, crevaient littéralement de faim parce qu'on ne pouvait pas pratiquer le marché noir. Bon, c'est aussi, c'est la privation, c'est pas seulement la privation du père, mais c'est la privation aussi de protéines, etc.
Oui, alors en 2010, justement, la galerie Catherine Putman avait organisé cette exposition Pierre Buralio J1 volume 3, dans laquelle, je crois, vous reveniez sur cette époque à l'aide de ces matricules. Pouvez-vous nous expliquer, Pierre Buralio, ce que signifiaient ces J1 volume 1, J1 volume 2 ? Il s'agissait alors de cartes de rationnement, c'est ça ?
Oui, alors c'est pas évident pour tout le monde. C'est effectivement, nous avions des cartes de rationnement et un enfant en bas âge, avant qu'il ne parle, il est J1. Par la suite, il est J1, donc du un peu de lait, etc. Il est J2 et J3, on a le droit au coude rouge. Mais la guerre était finie. Bon. Et c'est, je crois, un très joli titre d'une sorte d'album qui porte de réflexions, de souvenirs, évidemment.
De fragments aussi.
Oui, absolument. Ce sont que des touches, des fragments. Mais le titre est un peu énigmatique, mais je crois qu'il est le coin de la nappe. On saisit l'époque.
À quel moment, Pierre Buralio, est-ce que la politique est entrée dans votre vie ?
Ah ben, la politique, elle était dans ma famille. Elle était dans ma famille pendant la guerre. Donc j'ai un oncle, un ancien combattant de 14-18, mais un homme d'extrême droite, mais qui rejoint la résistance gaulliste. Alors je vois même la Gestapo dans cet immeuble. Mais j'insiste, résistance gaulliste. Et j'ai gardé, il avait beau me terroriser d'être une grande gueule de militaire, mais je garde une admiration pour lui, pour son courage, puisqu'il a été dans la résistance. Mais c'est la politique, elle est dans ma famille. C'est une famille vraiment très à droite, et ça, sans doute que ça contribuera à me faire prendre, comme on dit ordinairement, prendre le pied contraire.
Lorsque vous fermez les yeux, Pierre Buralio, quelle image de vous, enfant ou adolescent, ressurgit ?
Oui, ben là, nous sommes dans le jardin, alors je peux me voir. Non, l'oncle militaire qui entretenait ce jardin ne voulait pas que j'y joue. Mais à côté, vous savez, la cour, n'est-ce pas ? Là, je peux me revoir jouant. Et je sais pas, on parlait de la libération de Paris, et j'ai évoqué aussi le retour si tardif de mon père. Ben, tout d'un coup, j'ai comme ça un flash, vous allez voir, plus on vieillit, plus une espèce sur l'écran de la mémoire, des flashs qui se succèdent. Je revois l'hiver 45, qui est un hiver extrêmement rigoureux, où avec d'autres petits garçons de l'immeuble, on avait construit un igloo, et donc qui était solide, parce que tout était gelé. J'ai cette image. Donc j'ai le fait que nous parlions ici, n'est-ce pas, dans ce jardin, cette cour, je revois ma vie dans cette cour.
Et nous nous retrouvons à 17h dimanche prochain sur France Culture ou quand il vous plaira en podcast pour d'autres numéros d'Être et Savoir.